tout de suite passer à la deuxième partie de notre conférence de presse. Vous connaissez la règle. Fermez vos téléphones, nous mettez-les sur le vibreur, s'il vous plaît. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Levez la main et on va vous passer un micro. Nous commençons sur la droite, à gauche, s'il vous plaît. Oui, première question.
Oui, Carlos Mopili pour la CCPM. Ma première question, je l'adresse au général Bass.
Merci pour la promotion.
Colonel Bass, pour ce qui est de la traque de Raia Mutomboki ou bien les Mai Mai, qu'est-ce qu'on leur reproche? Le fait de causer des exactions contre la population civile ou c'est dans le but de le faire déposer les armes? Si c'est pour le deuxième cas qui est le dépôt des armes, mais ce n'est pas de leur droit de prendre les armes parce que c'est reconnu par la Constitution que tout Congolais a droit à faire échec à l'agresseur, à l'envahisseur.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes ici en tant que représentant de ces groupes armés? Non. Ok. Donc, vous semblez faire leur apologie ici, là?
Non.
Ok. Allez-y, posez votre question.
C'est ça la question.
Quelle est la question?
Non, j'ai demandé, on les reproche de quoi? Si les faits, qu'on demande qu'ils puissent déposer les armes ou qu'ils puissent cesser les exactions contre la population civile.
Voilà la question. Merci beaucoup et on va vous répondre.
Ok. La deuxième question, c'est par rapport à la campagne contre les violences sexuelles. Est-ce que vous avez déjà fait... vous avez mis l'accent sur... parmi les violences sexuelles, si l'harcèlement sexuel dont on constate que les victimes elles ne sont pas elles ne prennent pas conscience, mais elles se croient être gagnantes dans cette activité. Merci.
Mon colonel.
Oui, merci. D'abord, je pense que votre première question, vous devriez plutôt la poser au FRDC. Qu'est-ce qu'il reproche au Raia Mutomboki? Nous appuyons le FRDC dans le cadre justement de la restauration de l'autorité d'État sur toute l'étendue du territoire congolais. Et je pense que comme vous avez tantôt mentionné la Constitution, je pense que dans tout pays, dans tous les pays, ceux qui sont autorisés à porter des armes et à défendre l'intégrité du territoire et les populations sont bien connus, définis dans un cadre tout à fait légal que tout le monde connaît. Donc, le Raia Mutomboki, vous avez bien suivi ces temps-ci, le nombre d'exactions, le nombre de villages attaqués, brûlés, des gens tués, violés. Alors, donc, je pense que c'est un groupe armé illégal, illégitime, qui doit être combattu par les FRDC s'ils en prennent l'initiative. Et dans ce cadre, la force de la MONUSCO appuiera les FRDC dans la traque contre les Raia Mutomboki ou tout autre groupe armé qui sème la RDC et sème aussi bien la désolation que la mort au sein des populations civiles qui n'en ont pas besoin.
Concernant votre deuxième question, oui, je pense que les premières personnes qui doivent se plaindre de harcèlement sexuel, ce sont les victimes. Mais ces victimes ne peuvent être encouragées à se plaindre que s'il n'y a pas l'impunité. Et c'est l'impunité, je pense, qui encourage la poursuite de ces harcèlements contre ces femmes dont vous parlez. Parce que on a remarqué à plusieurs reprises que souvent, ces plaintes ne donnent pas suite à des poursuites judiciaires et que même s'il y a poursuite judiciaire, souvent ces personnes se retrouvent encore dans la rue pour harceler les victimes. Donc l'impunité, la fin de l'impunité, ce serait une des voies pour encourager les femmes à porter plainte. Oui, il y a des sessions de sensibilisation et d'information envers les femmes pour les encourager justement à porter plainte en tant que victimes. Mais comme je l'ai dit encore une fois, ces femmes ne peuvent croire dans ce système que si on met fin à l'impunité. Deuxième question, s'il vous plaît. RTNC.
Merci, c'est venant, vous dites ça pour la RTNC. Mon colonel, trois petits points ont retenu mon attention, mais j'aimerais mieux, je sollicite votre concours pour mieux le comprendre. Le premier point concerne l'appréhension de 6 éléments armés burundais, c'est-à-dire, j'aimerais mieux comprendre. C'est pour dire que l'armée burundaise est aussi entrée en danse dans notre pays. C'est vous qui allez m'aider à bien comprendre ce problème. La découverte de caches d'armes à Bukavu. Il y a des enquêtes qui sont menées pour découvrir d'où proviennent ces armes. Certainement, vous devez vous y pencher pour bien comprendre. En fait, si pas vous, mais vos services qui sont basés à Bukavu. Le colonel Kaéché, avec ses 35 éléments qui se sont rendus, c'est pour être désarmé, pour totalement mettre fin à son aventure, à vous.
Merci. Mon colonel.
Oui, merci. Donc, pour la première question concernant l'appréhension des éléments armés burundais, il ne s'agit pas de l'armée burundaise. Vous savez que une rébellion burundaise qui s'appelle FNL, et aussi a trouvé refuge, ou en tout cas a trouvé son terrain de prédilection au sud Kivu, et ils écument un peu aussi cette zone du sud Kivu, particulièrement dans la plaine de la Ruzizi. Donc c'est dans ce cadre-là, dans le cadre des opérations qui sont lancées conjointement aussi bien à Kalehe, dans le territoire de Kalehe, que dans le territoire de Fizi, c'est dans ce cadre-là que la pression étant mise sur tous les groupes armés qui sont dans cette zone, c'est dans ce cadre que ces 6 éléments armés burundais ont été appréhendés par les FRDC dans le cadre de la sécurisation qui a été initiée avec ces opérations en remplacement de Amani Kamilifou suspendu temporairement. Donc ceci est pour c'est pour la première question. La deuxième question, je prendrai plutôt la troisième, le colonel Kahasha. Évidemment, je considère que c'est une excellente chose si on connaît un peu l'histoire du colonel Kahasha qui avait fait défection à partir de Beni et qui avait un groupe armé qui évoluait dans ce territoire de Beni un peu jusqu'à Lubero et qui avait fait jonction où il y avait une alliance avec La Fontaine, les éléments de La Fontaine, et suite à laquelle l'UPCP avait été créé. Donc si Kahasha, qui a quitté le nord Kivu pour se rendre au sud Kivu, évidemment, par rapport aux informations que nous avons, il était dans une dynamique de recrutement pour soutenir éventuellement le M23, se rend aux autorités provinciales. Je pense que c'est une bonne chose avec 35 éléments et c'est éventuellement pour essayer d'intégrer éventuellement les FRDC. En tout cas, la suite nous le dira. Pour le moment, on sait qu'il s'est rendu avec 35 bonhommes et qu'il y a d'autres éléments de son groupe qui sont dans la dynamique de vouloir rejoindre, faire reddition. Donc je pense que les opérations qui sont menées, la pression qui est mise sur les groupes armés est en train de payer. En tout cas, on est en train de récolter les fruits de toute cette pression exercée sur les groupes armés. Oui, la cache d'armes, c'est suite à une opération conjointe FRDC et PNC. Et comme je l'ai dit tantôt à la lecture de mon texte, ce sont des informations que les forces de défense et de sécurité congolaises ont reçues et ont décidé de mener cette opération. Fort heureusement, comme vous l'avez vu, les résultats sont probants. Et j'avais dit aussi que les investigations sont en train d'être menées. Et déjà, les premières informations issues de ces investigations, ce sont des gens qui appartiendraient à un groupe armé en gestation. Et que ces armes ont été introduites à Bukavu, dans la commune de Bagira, par le lac Kivu, comme vous le savez, donc qui est une voie d'eau qui permet aussi des infiltrations, ça et là. Donc voilà globalement ce que je peux dire pour vos trois questions.
Merci. Prochaine question.
Oui, c'est M. Samuel, du journal Explorateur. Ma question s'adresse à M. le représentant de la PAM. J'ai une préoccupation, en même temps une question. Vous venez de parler de 80 territoires en situation déserte, en situation difficile de la faim. tandis que notre pays a 144 territoires, si je ne me trompe pas. Et vous avez énuméré 6 millions de personnes en disette. Et vous venez de parler que la PAM a servi 126 000 personnes dans le Sud-Kivu. Donc un seul territoire, vous avez cité sur 80. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour aider plus ou moins les 79 territoires qui restent? Et qu'est-ce que votre aide va durer pendant combien de temps? Et puis, ça va. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider la population en situation difficile pour terminer à cette situation difficile?
Ok. Donnez le micro au PAM qui va répondre à cette question, si c'en est une.
Parce que vous avez mélangé deux informations. Il y a à la fois une enquête IPC qui est faite sur l'état de la sécurité alimentaire dans le pays, qui montre effectivement qu'il y a des poches avec de l'insécurité alimentaire. Quant à l'aide alimentaire du PAM, auquel nous avons fait allusion, c'est une aide d'urgence. Ça n'a rien à voir avec des problèmes de malnutrition chronique. C'est une aide d'urgence. Ce n'est pas 6 000 personnes. C'est en ce moment 800 000 personnes dans l'Est, un peu plus de 4 millions sur tout le territoire. Ce que nous avons donné cette semaine, ce sont les activités de cette semaine. Donc cette semaine, il y a 76 000 personnes dans le Nord Kivu à Minova, 6 000 déplacées à cause des pluies à Dungu, et un peu plus de 20 000 personnes dans le Sud Kivu. Donc ça, c'est un focus sur ce qui s'est passé cette semaine. Il est évident que pour prendre en compte les problèmes d'insécurité alimentaire dans tout le pays, ce n'est pas que l'aide d'urgence. C'est aussi les cantines scolaires, les soutiens aux femmes et aux enfants qui sont victimes de malnutrition. C'est aussi, alors ça c'est le PAM, mais il y a aussi tout le travail de la FAO, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le Bas-Congo, qui vient, et pas seulement au Bas-Congo, mais aujourd'hui on a parlé du Bas-Congo, qui vient en aide aux agriculteurs pour les aider à améliorer leur production. Il y a aussi le travail de l'UNICEF dans le cadre de la malnutrition. Donc voilà, aujourd'hui nous avons donné les informations de la semaine. Donc c'est pas ce qu'on fait en général. En général, pour le PAM en tout cas, c'est plus de 4 millions de bénéficiaires pour les personnes qui sont dans une situation extrêmement critique. Pour le reste, tout ne peut pas être résolu par l'assistance alimentaire. Il y a aussi des programmes de développement. Et tout ça, effectivement, c'est un large programme que nous pourrons détailler un jour si ça vous intéresse.
Merci. Nous prenons la prochaine question. Monsieur Marley.
Roger Marley, CMC TV. Nous venons encore une fois d'entendre parler des Agnellés dans le rapport sécuritaire fait par le porte-parole militaire Prosper Bass. Que pouvons-nous donc comprendre? Des Agnellés recommencent-ils à faire usage des manœuvres guerrières dans la province de l'Équateur? Ont-ils ressuscité?
Bon, je ne pense pas qu'on ait parlé d'exaction ou de retour de Agnellé. On a parlé, non, le colonel Bass n'en a pas parlé, c'est moi qui ai mentionné le problème des Agnellé qui ont été arrêtés et qui sont maintenant devant des juridictions, devant un tribunal. Donc ce n'est pas des activités sur le terrain, ce sont ceux qui ont été arrêtés maintenant qui doivent passer devant la justice. Prochaine question, s'il vous plaît.
Merci. Saint-Germain-des-Prés, ami du peuple. La question s'adresse au colonel Bass, qui sera complétée par Florence Marshall, vu la nature de la question. Après avoir parcouru la lecture de votre texte et à la lumière de la journée mondiale de la science au service de la paix qui s'est tenue voici 4 jours, je suis arrivé à la compréhension selon laquelle MONUSCO rime avec l'UNESCO, n'est-ce pas, par le fait qu'elles sont toutes les deux préoccupées par la question de la paix. La MONUSCO à travers...
Votre question, s'il vous plaît.
J'en arrive.
Non, la question, s'il vous plaît.
Ah oui. Je voudrais savoir... la différence complémentaire qui existe entre l'UNESCO et la MONUSCO, qui ont pour point commun la paix, la préoccupation relative à la paix. Comment comptez-vous mettre
à profit cette
différence complémentaire?
Merci beaucoup, merci. Merci.
Merci.
Non, on a compris la question. Est-ce qu'on a M. Poto ici? Il n'est pas là aujourd'hui. C'est une excellente question. Vous voulez savoir la différence qu'il y a entre la MONUSCO et l'UNESCO. Monsieur Potopote de l'UNESCO n'est pas là. Simplement, je veux vous dire que la MONUSCO est une mission de paix. C'est une mission ponctuelle qui est ici en République démocratique du Congo. Je vous réponds vraiment succinctement. L'UNESCO fait partie des agences du système des Nations Unies et qui est là sur le long terme. Et comme vous le savez, l'objectif de l'UNESCO, c'est de travailler dans le domaine de l'éducation et de la science, etc. etc. Donc, ce n'est pas la même chose. Bien entendu. OK. Mais je vous réponds très succinctement, mais on peut avoir une plus longue discussion après ça, si vous voulez. Prochaine question, s'il vous plaît. Florence, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, c'est l'occasion de rappeler que la MONUSCO et toutes les agences du système des Nations Unies, on est tous évidemment engagés pour la paix, la stabilité et le développement. C'est un mandat qui est commun à toutes les agences des Nations Unies. Et voilà, donc, merci.
Prochaine question, s'il vous plaît.
Oui, merci pour la parole. C'est Serge Vukendi pour le compte de Baraka Télévision. Ma préoccupation consiste à savoir la situation actuelle dans la ville de Goma. Et surtout, on parle de plus en plus de l'insécurité grandissante dans cette ville-là. Êtes-vous au courant de ceux-là qui commettent ces actes-là ou... Où sont stationnés les éléments de la MONUSCO à Goma?
Colonel?
Merci pour votre question. Je commencerai par dire qu'effectivement, il y a 3 semaines, durant les 3 semaines écoulées, il y avait eu, voire même un mois, il y avait eu effectivement des incidents qui avaient été répertoriés dans la ville de Goma, notamment des tueries et des grenades lancées, etc., etc. Et donc, suite justement à cet environnement où l'insécurité semblait prévaloir, les forces de défense et de sécurité congolaises, la PNC, les FRDC, soutenues par la MONUSCO, ont mis en place un plan de protection interne de Goma, ont mis en place des mécanismes qui ont permis aussi bien de renforcer la sécurité dans la ville de Goma, qui ont permis la mise en place d'un état-major pour coordonner justement les activités de toutes ces forces de défense et de sécurité qui mènent jour et nuit des patrouilles pour effectivement apporter un peu plus de calme et de paix aux populations locales. Donc, je pense que les informations que vous me livrez sont un peu obsolètes, parce qu'aujourd'hui, la ville de Goma, il n'y a aucun incident majeur. Maintenant, où se trouve la force de la MONUSCO? La force de la MONUSCO est déployée partout où la menace se fait sentir, auprès des FRDC et par nos propres soins, dans le cadre de nos opérations unilatérales, pour sécuriser les populations telles que le stipule notre mandat.
On va le prendre en face.
Merci beaucoup. C'est Didot Sapo du journal La Prospérité. La semaine dernière, la société civile du Nord Kivu était montée au créneau pour demander des sanctions contre ceux qui soutiennent la rébellion au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. D'après l'information de l'agence belga, il devait se tenir à New York une réunion du comité des sanctions pour examiner le problème de l'Est de la RDC et puis probablement donner des sanctions à ceux qui troublent la paix. Est-ce que c'était le 12 novembre dernier, le lundi, donc je voudrais savoir, concernant vous, monsieur le porte-parole civil, s'il y a des détails supplémentaires à ce sujet. Merci.
Effectivement, le comité des sanctions des Nations Unies s'est réuni à New York et une des mesures... une des mesures prises a été d'ajouter le nom de M. Makenga sur la liste des personnes frappées par les sanctions, c'est-à-dire que M. Makenga ne pourra plus voyager librement et ses avoirs identifiés seront gelés. Cette liste vient s'ajouter à une liste déjà longue de personnes ici en République démocratique du Congo frappées par le comité des sanctions. À droite. OK. Passez un micro à droite.
Merci. Merci, Albert Romba, Numérica TV. Monsieur le porte-parole militaire,
L'Ouganda vient d'annoncer la fermeture de sa frontière au niveau du Chacha et Bunagana suite à ce que les Nations Unies l'ont cité comme État, un pays faisant partie de tous ceux qui troublent l'ordre de ce côté-là. Est-ce qu'il y a une réaction de la MONUSCO à ce sujet?
Ben, il n'y a aucune réaction de la part de la MONUSCO. L'Ouganda est un pays souverain qui décide unilatéralement de fermer sa frontière. Déjà que le Congo avait déjà fermé sa frontière à Bunagana, mais je pense que cette mesure est tout à fait, je dirais, entre dans les prérogatives des autorités gouvernementales ougandaises. Donc il n'y a vraiment pas de commentaire de la part de la MONUSCO.
Pour ajouter à cela, le comité des sanctions a aussi adopté ce projet de rapport qui fait beaucoup de bruit. Donc, le rapport devrait maintenant sortir en l'état. Il n'y a pas eu de changement, contrairement à ce qui a été dit. Oui, derrière vous. Allez-y. Levez-vous quand vous voyez derrière là.
Oui, moi c'est Papi Kanokola pour la Libre Orientale. Je voudrais poser une question à M. Mounoubaï. Est-ce que vous êtes au courant d'une lettre d'une ONG Justicia dans le Katanga adressée à la MONUSCO justement pour dénoncer un certain nombre d'exactions commises par des rebelles Mai Mai, enfin des milices Mai Mai à Mitouaba?
Oui, je suis au courant de la lettre.
Et est-ce que quelle réponse la MONUSCO a réservée justement à cette lettre?
Est-ce que la lettre est adressée directement à la MONUSCO? Ok. Oui, il n'y a pas encore de réponse officielle, mais il y a certainement des commentaires que nous pouvons faire, surtout en ce qui concerne les recommandations contenues dans cette lettre, et je vais laisser le colonel vous répondre sur les dispositions que nous avons sur place.
Effectivement, à la lecture de cette lettre, cette ONG a un peu appelé la MONUSCO, inviter la MONUSCO et à se redéployer particulièrement dans les Malembangoulou, à Mitouaba, à Pueto, à Manono, en vue d'accroître un peu la sécurisation des populations civiles. Nous avons pris bonne note de cette lettre, mais voilà ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, nous avions déployé à Mitouaba à partir du 18 octobre 2012 une base opérationnelle, mais en soutien à une équipe conjointe composée de l'administrateur du territoire de Mitouaba, du chef de bureau, du commandant en second de la 6e région militaire et du commandant de la brigade du Nord Kivu de la MONUSCO, qui s'était rendu à Mitouaba dans le cadre de pourparlers concernant la reddition de 250 Maïmaï Guédéon, qui en avait exprimé la volonté, mais avait précisé aussi qu'il voudrait se rendre en présence de la MONUSCO. Donc, dans le cadre du soutien de cette mission, nous avons déployé une base à Mitouaba. Mais le 5 novembre, nous avons effectivement démonté la base parce que les pourparlers n'ont pas abouti et les Maïmaï Guédéon avaient demandé une semaine supplémentaire. Donc c'est que lorsque nous avons déployé cette base le 5 novembre, qu'il y a eu une attaque des Maïmaï Guédéon sur une base FRDC. Donc effectivement, nous n'avons pas une grande présence à Mitouaba, mais nous avons une présence à Manono. Nous n'avons pas de présence à Pueto. Nous y menons des patrouilles de temps en temps. D'ailleurs, demain, le 15, il y a une patrouille qui est prévue pour aller justement jusqu'à Pueto. Effectivement, cette ONG pose un problème qui est assez sérieux et qui interpelle aussi bien la MONUSCO que le gouvernement congolais. Mais dans le cadre de la force, nous sommes déjà dans la dynamique de déployer carrément une base opérationnelle temporaire à Mitouaba pour effectivement prendre en compte ces questions liées à la sécurité et à la sécurisation des populations civiles.
Voilà. Avec ça, nous avons terminé notre conférence d'aujourd'hui. Je voudrais vous remercier et remercier nos auditeurs de Radio Okapi qui nous ont